Prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Daniel 7, au verset 25. Bonjour à toi, amis auditeurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être présent chaque matin pour partager la parole de Dieu. Peut-être que tu écoutes pour la première fois et je voudrais te souhaiter la bienvenue. Peut-être que tu écoutes tous les jours et je voudrais te remercier pour ta fidélité. Que Dieu vous bénisse tous et que son esprit nous guide à travers cette méditation. Depuis quelques jours, nous étudions le sabbat. Hier, nous avons vu comment le jour du sabbat a été changé du samedi au dimanche. Et nous nous demandions, mais qui en a été l'auteur? Aujourd'hui, nous verrons cela plus en détail. La réponse que nous cherchons se trouve dans le livre de Daniel, un livre rempli de prophéties, de symboles et d'images, afin de comprendre les choses à venir. Dans Daniel 7, il est question de quatre bêtes, qui symbolisent quatre royaumes, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, ainsi que Rome. Mais attardons-nous sur cette quatrième bête. Daniel 7:7 nous dit: après cela, je regardais pendant ma vision nocturne et voici une quatrième bête terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Il est très clair que cette quatrième bête représente l'Empire romain. Cette période nous conduit à l'époque de Christ. C'est un décret romain qui emmena Joseph dans la petite ville de Bethléem où Jésus naquit. C'est Ponce Pilate, un romain, qui jugea Jésus. Et c'est un soldat romain qui le cloua à la croix. Rome dominait le monde au temps de Jésus. Le christianisme naquit et se développa dans cet empire romain. La Bible décrit clairement l'effondrement dans l'empire romain en utilisant le symbole de la statue précédemment dans Daniel, et des cornes de la quatrième bête. La statue de Daniel 2 avait des pieds et des orteils de fer et d'argile, représentant l'Europe divisée. Et en ce moment même, nous entendons tous parler du Brexit, et nous nous rendons compte que la parole de Dieu ne ment pas. L'Europe est divisée. La quatrième bête avait 10 cornes, et Rome fut divisée en 10 parties. Les tribus barbares venant du nord envahirent l'Empire romain, décadent, pillant, mettant à sac, détruisant les villages occupant les villes. L'Empire romain se trouva ainsi divisé, ces tribus barbares le morcelant en 10 petits royaumes secondaires. Les Anglo-Saxons s'établirent en Angleterre, les Francs en France, les Allemands en Allemagne, les Ostrogoths en Autriche. Les autres tribus s'installèrent dans le reste de l'Empire, divisant son territoire tel que nous le voyons aujourd'hui. Ces divisions sont symbolisées par les 10 cornes de la bête. Puis, Dieu révéla de quelle façon l'apostasie entra dans l'Église lors de l'invasion de l'Empire romain par ces tribus barbares venues du Nord. Cette prophétie de Daniel 7 que nous venons de voir parle clairement du conflit au sujet de l'adoration et précise comment le sabbat fut changé. Dans sa vision, Daniel vit les 10 cornes ainsi qu'une chose étonnante s'élever entre elles. Lisons, « Je considérais les cornes et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Daniel 7, verset 8. La Bible dit que cette petite corne qui s'éleva était différente de toutes les autres. Que représente donc cette mystérieuse petite corne? Voyons ce que dit la Bible à son sujet. D'abord, elle s'élève parmi les 10 cornes. Si ces dernières sont des divisions de l'Empire romain, la petite corne doit venir d'Europe occidentale. Elle ne peut sortir d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Nord ou du Sud. Ses racines se trouvent dans le sol européen. Deuxièmement, la Bible dit qu'elle s'élève après les 10 cornes. Daniel 7, verset 8. Elle ne devait pas apparaître à l'époque de Babylone, des Médo-Perses, de la Grèce ou de Rome, mais s'élever après la chute de l'Empire romain. C'est une puissance qui devait sortir de Rome dans les premiers siècles. Comme nous le verrons, cette puissance devait changer même la loi de Dieu. Troisièmement, la Bible dit aussi que cette petite corne a des yeux d'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Savez-vous comment les prophètes sont appelés dans la Bible? Ce sont des, entre guillemets, voyants. Parce que les prophètes voient avec les yeux de Dieu. Les yeux des hommes représentent non la sagesse divine, mais la sagesse humaine. C'est un système religieux humain fondé sur des enseignements humains qui allaient s'élever de Rome. Notez aussi que le verset de Daniel 7, verset 24, souligne qu'elle est différente des autres. C'est le quatrième élément permettant d'identifier cette petite corne. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Daniel 7, verset 24. Toutes les puissances avant elle, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et Rome, furent de nature politique. Celle-ci est différente, dans la mesure où elle n'est pas politique avant tout. Il s'agit d'un pouvoir religieux, d'une puissance politico-religieuse. Qu'allait faire cette puissance? Elle essaierait de changer la loi divine, comme le dit la Bible au verset 25 de Daniel 7. Lisons, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Y a-t-il une manière plus grave de parler contre le Très-Haut que de tenter de changer sa loi, spécialement son sabbat? Cette puissance essaierait de changer la loi même de Dieu. Nous ne parlons pas ici d'une loi sans importance comme une loi politique ou financière. Quand un gouvernement prend la suite d'un autre, les lois humaines sont presque systématiquement modifiées. Cependant, cette puissance de la petite corne proférait des paroles arrogantes contre le Très-Haut en assumant des prérogatives revenant à Dieu et en essayant de changer ses lois. Voyons donc le point de vue historique. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu jusqu'à présent. Les quatre bêtes représentaient quatre empires, Babylone, les Mèdes, les Perses, la Grèce et Rome. La petite corne s'éleva de l'Empire romain symbolisait, en fait, l'émergence d'un homme qui prit sa tête lors des premiers siècles de l'Église chrétienne. Pour essayer d'apaiser les païens se joignant en grand nombre à l'Église et rendre le christianisme plus acceptable dans l'Empire, cette puissance romaine allait tenter de modifier la loi de Dieu. Le passage du sabbat au dimanche fut très progressif, résultant d'un certain nombre de facteurs sociaux et religieux. Dans son encyclopédie biblique, le docteur John Eady nous aide à comprendre les racines de ce changement. Sabbat, un mot hébreu signifiant repos. Le terme dimanche était un nom donné par les païens au premier jour de la semaine, parce que c'était le jour où ils adoraient le soleil. L'adoration du soleil était alors courante en Égypte, à Babylone, dans le royaume de Perse et à Rome. Au IVe siècle, l'empereur romain Constantin approuva également le culte du soleil. Ainsi, désirant unir son royaume, il passa un décret établissant un jour commun d'adoration et de repos à travers l'Empire. Son intention évidente était de promouvoir l'unité entre les païens et les chrétiens de son royaume. Voici ce décret qui fut adopté en l'an 321 de notre ère. Au vénérable jour du soleil, que les magistrats et le peuple vivant dans la ville se reposent et que les magasins soient fermés. Constantin appela le dimanche le vénérable jour du soleil. et voulu que tous les ateliers soient fermés. L'empereur Constantin fit donc passer la première loi du dimanche dans un désir d'unifier son empire. Il était tellement attiré par le dieu soleil qu'il avait son image sur une face des pièces de monnaie de son royaume et le dieu soleil sur l'autre. Ainsi, l'Église et l'État s'unirent pour christianiser les païens et unifier l'empire. C'est ainsi que nous pouvons identifier qui est responsable du changement du jour du repos, le sabbat, au dimanche. Mais dans nos prochaines méditations, nous irons encore plus loin et vous verrez comment cela s'est transmis et comment jusqu'à aujourd'hui, cette autorité est en place. Puisse Dieu nous éclairer dans la suite de ces méditations. Bon Père, nous voici devant toi, en toute humilité, pauvres pécheurs, salis par le péché. Mais Père, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander de nous placer sous ta grâce, de nous placer sous ton manteau de justice, que tu puisses nous laver, nous purifier, et que Seigneur, nous puissions marcher en nouveauté de vie avec toi. Nous libérer, Seigneur, de ces pensées, de ces actions, de cette vie que nous menons et qui nous sépare de toi. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus, purifie-nous et change nos cœurs. Aide-nous à marcher en nouveauté de vie et que le monde puisse voir que tu vis en nous. Tendre Père, ce matin, tu nous montres encore un peu plus et tu nous révèles qui a été l'auteur de ce changement de la loi, de ta loi. Père, ton sabbat, tu l'as institué dès la fondation du monde, dès la création. Et Seigneur, elle est au cœur de ta loi. Et tu l'as gravé de ton doigt des années plus tard. Père, tu l'as gravé dans la pierre afin de nous montrer à quel point ta loi est importante, à quel point ta loi est immuable. Tendre Père, aide-nous à pouvoir comprendre les tenants et aboutissants, aide-nous à pouvoir comprendre les applications dans nos vies, et aide-nous à pouvoir comprendre comment ce jour sera déterminant pour la fin des temps. Tendre Père, si ce n'est ton esprit qui nous éclaire, nous ne pourrons comprendre, car Seigneur, nous ne sommes pas capables de comprendre par nous-mêmes cela. Éclaire-nous, dirige-nous et conduis-nous dans l'étude de ta parole, dans l'étude de tes préceptes, et que nous soyons des hommes changés par toi. C'est notre prière ce matin, nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
De mon cœur, oui, tu m'as délivré, Jésus, tu as.